Dites-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Édouard Dupenoit.
Et 8h40 en temps universel, ensemble pour les 20 prochaines minutes, pour revenir avec vous sur les sujets de votre choix. C'est la libre antenne d'Appel sur l'actualité, ce dont vous auriez voulu que l'on parle cette semaine, ou bien ce dont on a parlé sur RFI, mais qui vous intéresse toujours et sur lequel vous souhaitez vous exprimer de nouveau. Ainsi, la victoire du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions, la suspension des activités des partis politiques au Mali, la deuxième rencontre en 6 mois, entre Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, et son homologue français, Emmanuel Macron. Vous nous appelez aussi de Bujumbura, une partie de la capitale économique burundaise, sous les eaux du Tanganyika, gorgée par des pluies qui ne s'arrêtent pas. On essaiera aussi de joindre Nouakchott, où à l'inverse, la vague de chaleur de ces dernières semaines vous a particulièrement affecté. Mais d'abord, on rejoint Élie, qui nous attend à Kinshasa, la capitale congolaise. Bonjour Élie.
Bonjour cher Edouard, mes salutations les plus respectueuses au président Macron, Emmanuel Macron.
Je ne sais pas s'il nous écoute, mais on en prend bonne note. Vous souhaitiez nous faire part de votre attente qui commence à se prolonger. Vous trouvez le temps assez long, en tout cas, le temps du nouveau gouvernement congolais dont on ne connaît pas la composition.
Évidemment, cher Edouard. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que le régime en place est en train de mettre assez du temps pour pouvoir donner aux Congolais un nouveau gouvernement.
Alors, on va rappeler...
Je rappelle juste,
cher Élie, quelques dates pour les auditeurs qui nous écoutent hors de la République démocratique du Congo qui n'ont peut-être plus le calendrier en tête. On est 3 mois, quasiment jour pour jour, après l'investiture pour un second mandat du président Félix Tshisekedi, 3 semaines après la nomination d'une première ministre, en l'occurrence Judith Suminwa, et puis Augustin Kabuya... a remis son rapport d'identification de la majorité au chef de l'État. Vous estimez que le temps est venu, ça y est, ça fait suffisamment longtemps et qu'il est temps d'avoir un gouvernement?
Tout à fait, Edouard. Moi, je me demande quels sont ces hommes idéaux que ce nouveau gouvernement va pouvoir apporter aux solutions, aux maux qui rongent les Congolais, qui souffrent, qui croupissent de la famine, de la marasme économique, de l'économie, de l'insécurité à l'est de la République, notamment à Ituri, à Beni, à Fizi, à Masisi. Mais c'est quoi? Dans ces pays, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? En 1914, on a eu la conférence nationale souveraine. En 2003, on a eu le dialogue intercongolais à Saint-Titi, en Afrique du Sud. Qu'est-ce que ça a engendré? Qu'est-ce que ça a donné? On a eu comme dirigeants dans ces pays des professeurs d'université, des professeurs de mérite. On a eu des pasteurs, on a eu des militaires, mais qu'est-ce que ça a engendré?
Alors,
rien du tout. Le bilan est catastrophique.
Élie, justement, je vais me faire l'avocat de la partie adverse et je me ferai l'avocat de votre parti aussi avec l'auditeur suivant qui est aussi à Kinshasa. Mais la nouvelle chef du gouvernement, Judith Suminwa, elle aimerait diminuer déjà significativement la taille de son équipe. Je rappelle que l'équipe précédente, c'était 57 membres. Est-ce qu'une cure d'austérité... qui prend du temps nécessairement pour former une équipe resserrée, est-ce que ça ne semble pas être un bon signe à vos yeux?
Cher Edouard, je vous dirai une chose. Madame la Première Ministre Judith Suminwa, elle n'est rien d'autre que la version féminine de M. Samalou Kondé. Qu'est-ce que ce dernier a fait? Rien du tout. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que j'ai beaucoup d'estime, il n'a fait que décorer l'histoire du pays, notamment en nommant une femme comme étant une première ministre.
Oui, alors
depuis l'accession de notre pays, il n'a fait que décorer l'histoire.
Vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas encore dresser un bilan de l'action de Madame Judith Suminwa à la tête du gouvernement, puisque précisément le gouvernement n'est pas encore connu et que ça ne fait que 3 semaines qu'elle a été nommée. Moi, ce qui m'intéressait dans votre témoignage, c'était juste, est-ce que l'idée de réduire le train de vie, déjà ne serait-ce que du gouvernement en nommant une équipe resserrée, est-ce que ce ne serait pas une mesure qui irait dans le bon sens à vos yeux?
Bon, honnêtement, le fait de réduire la taille du gouvernement, cela va déjà certainement... ça donne déjà un bon indice. Mmh. Le fait de diminuer le train de vie de ce gouvernement, en tout cas, moi, je me réjouis, mais je ne vois pas en fait, chez notre Premier ministre, cette capacité-là de vouloir relever le défi tant entendu par les Congolais.
Bon,
je vous l'ai dit, elle n'est rien d'autre que la version féminine de M. Samalo Kondé.
Bon, on laissera le temps juger sur pièce de son action à la tête du futur gouvernement. On entend votre frustration et votre peu d'espoir que vous avez dans cette future nouvelle équipe. Élie, je vous remercie de nous avoir fait part de votre témoignage. Emery est aussi à Kinshasa en ligne avec nous. Bonjour Emery, bienvenue sur l'antenne d'RFI.
Bonjour à Cher Edouard et à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous disiez en préparant l'émission, je comprends qu'on prenne du temps pour nommer le gouvernement, contrairement à votre compatriote qui s'exprimait il y a quelques minutes. Vous êtes plutôt dans une attitude patiente.
Oui, en fait, je partage la frustration de mon compatriote, M. Élie. Mais contrairement à lui, il est trop pessimiste par rapport aux attentes que chacun de Congolais a par rapport à ses gouvernements. Déjà, il est en train de viser le Premier ministre sans qu'elle ait commencé. Et donc, du coup, ce n'est pas une bonne approche. Moi, je pense que si le gouvernement a pris toute cette longueur pour être mise en place, c'est parce que le Premier ministre a décidé de mettre les compétences dans chacun des ministères pour pouvoir finalement nous donner des personnes qui vont apporter des solutions pour notre pays. C'est vrai que le pays a des problèmes, comme l'a dépeint Élie. À l'Est, il y a la guerre, il y a la famine, il y a toutes ces histoires-là, oui, bien. Mais il faut quand même être optimiste, puisque déjà, si nous voyons le premier quinquennat du président, il y a eu pas mal de réformes qui ont été faites, malgré le fait que le social est en train de balbutier encore. Mais il y a eu pas mal de réformes qu'on doit reconnaître et puis applaudir.
À quelle réforme vous pensez, par exemple? À quel changement sous le premier mandat du président Tshisekedi? Quel changement est-ce que vous tenez à saluer, Emery?
Il y en a plusieurs, mais je dois citer quelques-unes, notamment la gratuité de l'enseignement. Il y a aujourd'hui, le président, à travers son premier quinquennat, est en train de donner dans tous les territoires congolais des écoles neuves que je vis. Ce ne sont pas des histoires racontées, ce sont des choses qui n'existaient pas, qui sont mises en place, et j'encourage toutes ces réformes-là. Et donc, du coup, dans un pays comme le nôtre, qui est comme un continent, on ne peut pas non plus répondre à tous les problèmes directement en même temps. Non, laissons le gouvernement qui va bientôt commencer, puisque le Premier ministre avait donné une semaine qui a pris fin hier. Et donc, on pense que ce week-end ou la semaine prochaine, il y aura déjà la mise en place du gouvernement, et donnons-leur la chance de mieux faire afin de pouvoir développer le pays.
Alors, comme je l'avais promis à Élie juste avant vous, je me fais à mon tour l'avocat de la partie adverse. Bon, certes, les consultations ont commencé le week-end dernier, mais on peut se dire que l'informateur Augustin Kabouya a remis sa copie il y a déjà plusieurs semaines. Est-ce que malgré tout, le temps n'est pas un peu long pour former une équipe ?
Non, en fait, déjà, l'informateur est ici de l'Union sacrée, où c'est une mosaïque de plusieurs partis politiques et regroupements politiques. Donc, il faut faire de sorte que l'on puisse choisir le meilleur de toutes ces personnes-là afin de pouvoir former un gouvernement digne de son nom. Vous voyez, donc, moi, je ne trouve pas pourquoi ça peut poser un problème. Si nous attendons quelques jours encore, il n'y a aucun souci pour moi.
Bon.
Pourvu que c'est... Tout ce qu'ils sont en train de faire puisse déboucher
peu importe le temps que l'on attend, du moment que l'équipe qui sera formée soit composée de gens compétents et efficaces, pour résumer votre pensée. Merci beaucoup, Emery, de nous avoir appelé de Kinshasa, capitale congolaise, où il est 9h49. Nous sommes maintenant à Bujumbura, capitale économique du Burundi, où Béni est en ligne avec nous. Bonjour, Béni.
Bonjour Edouard, comment allez-vous ?
Je vais bien, je vous remercie. Béni, vous l'avez peut-être entendu dans la précédente édition du journal de l'actualité africaine. On a parlé des inondations qui ont ravagé la ville de Kalemie sur les bords du lac Tanganyika. Bujumbura, on est aussi sur les rives du lac, on est au nord-est du lac Tanganyika. Vous nous parlez aussi de ces événements climatiques particulièrement durs qui ont frappé ces derniers jours et ces dernières semaines.
Ah oui, tout à fait, on est sous le choc. Donc récemment on a eu des inondations, on a eu un débordement du lac Tanganyika. Eh bien, ça fait des sinistres, il y a des sinistres un peu partout. Donc, et ce qui nous choque en tant que citoyen burundais, moi ce qui me choque personnellement, c'est que en fait ça avait été prédit par les experts. Le gouvernement avait été alerté. Malheureusement, l'anarchie, c'est l'anarchie qui l'emporte ici à Bujumbura, Donc, au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu des mesures prises justement pour empêcher cette anarchie. Donc, les gens se construisent des maisons. Donc, sur les rives de la Tanganyika, eh bien, ça fait des victimes. Vraiment, on est sous le choc. Mm-hmm. Et c'est ça, vraiment, ça ne nous a pas beaucoup surpris parce que il y avait eu des signes avant-coureurs de cette tragédie naturelle.
Des signes avant-coureurs, c'est-à-dire quand on regarde le climat, alors disons, et ces manifestations dans la météo ces derniers mois, il y a eu des pluies quasiment ininterrompues depuis plusieurs mois, bien supérieures à la normale. On peut aussi, alors on entend que vous mettez en cause le manque de prévision du gouvernement et des autorités burundaises. Il faut aussi pointer le rôle d'un phénomène climatique cyclique qui revient régulièrement, qui est le phénomène El Niño, qui provoque aussi des pluies particulièrement fortes et notamment autour des bassins des Grands Lacs.
Oui, mais il fallait qu'on prenne des mesures, les gens, empêcher les gens de construire des maisons sur les rives de la Tanganyika. Ça allait être une bonne mesure, justement pour enrayer, je dirais, la progression. Donc, ce sinistre n'est pas le laisser vraiment l'emporter sur toute la capitale. Mais, à présent, on dénombre un chiffre vraiment très, très important. C'est plus de 100 000 personnes déplacées. C'est
absolument.
Vraiment...
Absolument.
Ça fait très mal.
Les autorités burundaises et la représentante des Nations Unies qui parlent effectivement de plus de 100 000 personnes déplacées à cause des pluies et des inondations. On estime que les eaux du Tanganyika ont atteint 777 mètres. On est à quelques centimètres de la crue record de 1964. Merci beaucoup, Béni, de nous avoir fait part de votre témoignage, de votre indignation à Bujumbura. Et c'est un événement climatique qui percute celui dont on vient de parler, puisque cette fois, on appelle Alioun à Nouakchott, capitale mauritanienne. Bonjour Alioun, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends.
Merci de nous avoir appelé, de nous faire part de votre témoignage sur l'antenne de Radio France Internationale. Alors, Béni, à Bujumbura, nous parlait de ces pluies diluviennes, de ces inondations records. Vous, à l'inverse, à Nouakchott, vous venez de traverser une phase de très forte chaleur inhabituelle.
Oui, effectivement, c'est ça. Bon, vous savez, les pluies enregistrées en Mauritanie pendant l'hivernage 2003 par l'Office national de la métrologie sont insuffisantes pour un pays comme la Mauritanie. Mm-hmm. Notre pays fait partie du Sahel qui compte le plus grand cheptel dans la sous-région. Environ 35% de notre superficie est occupée par le désert. Nous avons le Sénégal dont les terres agricoles sont fertiles, mais chaque année, les éleveurs mauritaniens se déplacent avec leur bétail en mois de mars vers le Mali et à la recherche des eaux et des pâturages. La Mauritanie fait partie du Sahel pendant l'été. Les vents du nord ont une vitesse de 45 kilos à 60 km par heure. La visibilité...
Vous parlez effectivement... Vous parlez de la surface mauritanienne qui est déjà constituée de désert. Je rajoute ce que disait le président mauritanien Mohamed Oulcher Razouani au moment de la 28e conférence des partis pour le climat, la COP de Dubaï. Il disait la désertification affecte 80% du territoire. Alors... Pour y faire face, Alioun, comment est-ce que, économiquement, les autorités mauritaniennes pourraient, à vos yeux, aider les populations à faire face à ces événements climatiques aujourd'hui accélérés et auxquels la Mauritanie est particulièrement sensible ?
Oui, voilà, c'est important, parce que l'État doit s'investir sur ces deux projets, l'eau et l'électricité. Chaque citoyen a droit à l'eau potable, à l'électricité. La température bat son record, comme vous l'avez dit, à 40 à 50 degrés. Face à une canicule, l'eau est indispensable pour faire lutter contre la chaleur. En ce qui concerne les coupures d'électricité, à ma connaissance, nous avons une ancienne centrale de 4 x 7 mégas, plus une nouvelle éolienne de 30 mégawatts. Au total, ça fait 58 mégawatts. Ce n'est pas suffisant. Alors, donc l'État doit mettre du paquet pour résoudre ce problème.
Alioun, vous me donnez une transition toute trouvée pour donner maintenant la parole à Ousmane, qui est à Dagana, puisque, alors on parlait justement de l'énergie. Il est un grand projet sur lequel les autorités mauritaniennes et sénégalaise misent beaucoup. Le projet GTA, le projet gazier Grand Tortue, au large des côtes conjointes entre les deux pays. Et il se trouve justement que Bassirou Diomaye Faye, nouveau président élu au Sénégal, a choisi la Mauritanie pour sa première destination de voyage officiel. Bonjour Ousmane.
Bonjour Edouard.
Bonjour
à tous les éditeurs de la RFI.
Très bon symbole, vous nous dites, à vos yeux, pour le président Diomaye d'avoir choisi la Mauritanie comme première visite.
Bon, tout d'abord, depuis l'élection, je n'ai pas eu l'occasion de participer à l'émission. Je félicite le peuple sénégalais pour sa maturité et félicite le président Diomaye pour son élection et lui souhaite beaucoup de réussite. Alors, c'est une bonne décision, une bonne initiative de faire sa première visite, la Mauritanie, qui est un peuple frère, un peuple voisin, nous avons des relations depuis Matusalem. Alors, il y a d'autres enjeux qui sont en cours, le problème du pétrole et du gaz qui lie les deux pays. Je pense que le président a très bien fait d'aller en Mauritanie, non seulement pour parler de la fraternité, mais aussi pour parler des intérêts qui lient les deux pays, afin qu'on anticipe sur beaucoup de choses dans l'avenir, parce que le Sénégal et la Mauritanie sont deux peuples pratiquement qui ont les mêmes cultures et les mêmes peuples.
Ces grands projets, le premier d'entre eux auquel on pense immédiatement, c'est donc ce fameux projet gazier dont alors, l'exploitation, la mise en service a été retardée. Maintenant, les autorités des deux pays disent que ce sera pour cette fin d'année 2024. Vous en attendez des résultats concrets ?
Oui, on attend des résultats concrets parce que c'est un travail quand même lourd qui a commencé depuis des années. On est en phase d'exploitation. Mmh. Alors 2024 est une année prometteuse. Et vu l'élection de Bassirou Diomaye Faye, vu son programme de campagne, tout ce qu'il a dit sur les ressources naturelles, moi je pense qu'il utilisera tous les moyens avec le président mauritanien Gazouani, les moyens nécessaires pour que l'exploitation puisse se faire cette année même, afin que les populations puissent avoir les bénéfices et que la vie au niveau du Sénégal et de la Mauritanie soit beaucoup plus apaisée, beaucoup plus facile,
au quotidien, tout simplement, avec des conséquences tangibles sur le quotidien. Merci beaucoup, Ousmane, d'être revenu sur l'antenne de RFI. On va rester dans le Sahel avec un auditeur dont je n'avais pas pu prendre le témoignage en début de la semaine. On répare notre erreur, je répare mon erreur. Kassoum, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bamako, capitale malienne, et on parle de la suspension de l'activité des partis politiques. Vous nous disiez, au départ, je n'avais pas bien compris. Maintenant, après y avoir réfléchi, ça me semble être une bonne décision. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut revenir sur cette pensée qui a cheminé en vous ?
Oui, merci déjà de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui. Moi, je pense maintenant que c'est une bonne chose, comme je l'ai dit. Moi, je pense que le dialogue qui est en cours doit être vraiment fait de façon calme, ouais. dans toute tranquillité.
C'était effectivement, voilà. je le rappelle effectivement pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité malienne de ces dernières semaines, c'était l'un des arguments avancés par les autorités de la transition. Les partis politiques, si je peux paraphraser, parasitent le débat, parasiteraient ce dialogue, d'où la raison de leur suspension. Ça a été des arguments vivement critiqués, en particulier par ces partis en eux-mêmes. Vous estimez malgré tout que c'est un argument recevable, Kassoum ?
Oui, c'est un argument recevable parce que les Maliens en ont besoin. Voilà. Donc moi, je pense que je m'en vais vraiment aux partis politiques de s'abstenir de ne pas participer au dialogue comme il faut.
Pardon, j'ai pas compris votre phrase. Vous en voulez aux partis politiques de ne pas participer à ce dialogue ? Je suis pas sûr d'avoir compris.
Oui, c'est ça. De refuser de participer au dialogue.
Kassoum, est-ce que ces partis étaient seulement invités ? Il restait un flou autour de cette question. Puisque leurs activités étaient suspendues, est-ce qu'ils avaient seulement le droit de participer à ce dialogue ?
Oui, Juan, à partir du moment où les autorités ne les ont pas vraiment dit de ne pas participer, qu'ils ne pourront pas participer, je pense que c'est le moyen d'aller vers la population. Voilà. Donc, parce que quand on essaie de voir, ce sont ces partis politiques qui sont représentés au niveau villageois du pays.
Donc, effectivement.
Il faut aller. Voilà.
Qui a été le premier niveau. Kassoum, je suis obligé de vous interrompre parce que l'horloge nous dicte sa loi. Je vous remercie d'avoir témoigné sur l'antenne de RFI. Je remercie également toute l'équipe, les équipes d'Appel sur l'actualité qui ont préparé cette émission toute la semaine. Le journal dans une dizaine de secondes.
Transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.